J'avais le désir de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, je l'ai toujours, mais en même temps, en ayant écouté vos prières, j'ai l'impression d'être redondant et que je vais répéter ce que vous avez apporté devant la face de Dieu. Il y a même des personnes qui, en voiture, reçoivent des pensées. Or, si maintenant le Seigneur vous parle avant que moi je prenne la parole, alors qu'est-ce que je peux dire? Merci, merci Seigneur. C'est un privilège que d'être dans une église où il y a cette liberté de se laisser conduire par l'Esprit et de partager, à la fois dans la prière, dans l'inspiration, ce qu'on a reçu. Et après, on est là, on se dit waouh. Et je crois que la santé d'une église se mesure à la densité, à la richesse à la fois des prières, des louanges et de l'adoration qu'on apporte au Seigneur. Alors merci à vous pour ce que vous m'avez apporté ce matin. Et je suis désolé pour la répétition des choses que je vais faire suite à vos prières et à votre louange. On est en plein été. L'été, c'est un temps particulier. Moi, j'en profite pour reprendre des choses que j'ai travaillées, reçues précédemment. Et puis, je vous rappelle que dernièrement, j'ai évoqué la découverte d'un livre à la médiathèque de Kevin qui recense les textes fondateurs de la Bible. Oui, à Kevin, la bibliothèque présente sur ses étagères les textes fondateurs de la Bible. Et j'ai vraiment eu du plaisir à feuilleter ce livre que j'ai partagé, montré à des personnes, et notamment avec ce récit d'Isaac, sur lequel je me suis arrêté récemment, Isaac qui creuse les puits de son père et ses propres puits, et la manière dont il entre dans les promesses faites à son père et dans les plans que Dieu a pour lui en personne. Et j'avoue que ces textes-là m'ont beaucoup apporté ces dernières semaines. Alors, je me suis demandé quels étaient les textes que j'avais moi-même considérés comme des textes fondateurs dans ma lecture de l'Écriture et que j'ai parfois travaillé pour la prédication, pour une étude biblique ou pour ma simple, croissance spirituelle. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager l'un de ces textes. Je l'ai déjà fait il y a longtemps, pour ceux qui s'en rappellent, le 5 juin 2011. Je suis désolé pour cela, ça va être un peu de la répétition. Ou alors ils ont oublié. Surtout qu'en ce moment, on constate qu'avec l'âge, nous oublions beaucoup de choses. Donc pour les autres, ça va être neuf. Et un de ces textes-là, pour moi, fondateur dans ma foi, se trouve dans le livre d'Esdras. Alors un texte fondateur, lire l'Écriture et découvrir des textes qui deviennent révélateurs de quelque chose, on peut se dire, mais comment ça se trouve, où est-ce qu'on pioche? On en parlait avec quelqu'un, je ne sais plus avec qui, comment est-ce que tu lis la Bible? Et puis quelqu'un disait, ah ben moi, j'ouvre la Bible au hasard et puis j'essaye de voir ce que Dieu peut me... c'était mardi midi, je faisais le service aux tables de 5 femmes qui étaient à la maison. Oui, c'était elle qui mangeait et moi qui servais. Voilà, comme quoi. Et en partageant, l'une d'entre elles disait, ben moi, la Bible, je pioche un peu au hasard, j'ouvre, etc. Et puis, parfois, on tombe sur des paroles qui ne sont pas faciles à comprendre. Alors, on va se réfugier dans les textes qu'on connaît bien, qu'on maîtrise. Toute la parole de Dieu est faite pour nous instruire des mystères de Dieu. Toute la parole. Et parfois... Lorsque nous lisons l'Écriture, nous avons, nous disons, ah oui, mais c'est un récit qui concerne Israël ou c'est un texte qui raconte l'histoire d'un homme. Et bon, pour moi, c'est intéressant pour ma culture, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, lire la manière dont des personnages, des récits racontent la manière dont des hommes construisent leur relation avec Dieu et Dieu entretient une relation avec des hommes, ça met en lumière des principes spirituels. On peut se dire, oui, si je vais dans la Genèse et que je lis l'histoire de Noé, très peu d'intérêt pour moi. Moi, je fais du vélo, je ne fais pas de bateau. Et pourtant, dans le récit de Noé, il y a un principe spirituel, à savoir, ne sont sauvés que ceux qui, dans une génération perverse, rentrent dans ce bateau, dans cette arche, pour y avoir le salut. Aujourd'hui, ce principe spirituel existe encore. Ne peuvent être sauvés que ceux qui montent à bord de la croix qui a été plantée à Golgotha, un autre objet de bois, et qui fait que je suis sauvé ou pas au milieu de cette génération éloignée de Dieu. Principe spirituel. Alors, quand nous lisons l'Écriture, est-ce que nous pouvons découvrir des principes qui, tout à coup, vont éclairer la compréhension du salut, la compréhension de Dieu, la compréhension. Et j'ai entendu une prière qui me disait cela aussi, la compréhension que j'ai de moi-même. La Bible essaye de m'ouvrir les yeux sur moi-même, sur la manière dont Dieu me voit et dont il m'invite à me voir aussi en lui. Quels sont les principes dans les textes de l'Écriture qui peuvent m'ouvrir les yeux sur les principes qui régissent notre vie et ce monde? Alors, le livre d'Esdras, je ne vais pas faire un sondage pour savoir qui l'a lu entièrement ces dernières semaines. Je risque d'être déçu. Moi, je l'ai lu plusieurs fois parce qu'il est rempli des principes de Dieu de manière très étonnante. Un des premiers principes, on le retrouve dans les premiers versets du livre d'Esdras. Alors, rapidement tracé, le livre d'Esdras, il raconte l'histoire du peuple d'Israël qui est en esclavage, qui a été déporté à Babylone et qui, 80 ans plus tard, est amené par un miracle assez étonnant, l'intervention d'un roi babylonien qui s'appelle Cyrus, à retourner en Israël et à se réapproprier son pays et surtout Jérusalem. J'irais, premier principe, c'est que quand on s'est éloigné de Dieu, et j'ai entendu ça dans ta prière, parfois je m'éloigne. Quand je m'éloigne, qu'est-ce qui se passe? Je ne ressens plus la présence de Dieu, mais parfois je sors des promesses de Dieu, je m'en éloigne. Ouais. Eh bien, premier principe spirituel, il est toujours possible de revenir. Il est toujours possible de rentrer à nouveau dans les promesses de Dieu. Il est toujours possible de reconstruire sa vie et de voir des miracles s'accomplir. Ça, c'est un principe. Le livre d'Esdras, c'est manifestement la clarification de ce principe. Il est toujours possible que la grâce de Dieu s'accomplissent dans notre vie, quels que soient les chemins qu'on ait empruntés. Il est toujours possible de revenir dans son appel. Oui, c'est toujours possible. La grâce de Dieu est là. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit, les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail pour des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Ça, dans l'ouverture et le prologue du livre d'Esdras, c'est déjà un principe qui est posé. Dieu n'abandonne pas son peuple, quelles que soient ses erreurs, quelles que soient les chemin de traverse qu'il ait pu emprunter, Dieu est toujours présent. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Cyrus, un roi étranger qui parle au nom du Dieu d'Israël. Ah là 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 là, Dieu peut même utiliser un roi étranger qui normalement devrait adorer des faux dieux. Il peut l'utiliser pour être son messager et dire à ceux qui se sont égarés, sont partis, sont devenus esclaves du fait d'avoir abandonné leurs promesses et leurs appels, Dieu dit, voilà, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui. Alors, quels que soient les moments où je me suis égaré, les chemins que j'ai empruntés, Dieu fait retentir cette question. Qui est de son peuple? Moi!
Alors, voilà, on est deux, il y a Valentin et moi. C'est bien ? On est deux ! Alléluia ! Il y en a qui ont des regrets, ils disent à moi. Ah non, je ne repose pas la question devant le Seigneur. L'analogie qu'il y a entre la libération d'Israël et le croyant est constante dans l'Écriture. Comme si le peuple de Dieu dans son ensemble était une représentation de l'individu face au salut de Dieu. Israël a été fluctuant dans ce qu'il avait reçu comme mission, comme appel. Et puis il était avec Dieu, puis il s'en est écarté. Très vite, hein, ils sont sortis d'Égypte, sauvés, un ange de la mort qui vient et qui accomplit la parole de Dieu. Tous les premiers-nés d'Égypte, hommes et animaux, sont morts. Ils sortent, ils sont libérés. Dieu écarte la mer. Et quelques jours après, ils construisent un veau d'or. C'est la nature de l'homme d'oublier le salut de Dieu, d'essayer de faire son chemin tout seul, sans Dieu. Alors, cette analogie, cette approche nous parle aussi du modèle que nous représente la parole de Dieu, du peuple juif et de l'Église, comme du juif et du chrétien. La libération d'Israël de l'esclave d'Égypte évoque l'œuvre de la rédemption proclamée par l'Église en Jésus-Christ. Qui est de son peuple aujourd'hui ? Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ. La marche du peuple d'Israël vers la terre promise, c'est une analogie du voyage du pèlerin de John Bunyan. On a un Écossais parmi nous, il doit connaître au moins John Bunyan. Oui ? Ouais. Ça a été, pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle, le deuxième livre le plus vendu après la Bible, le voyage du pèlerin. Je crois qu'il doit même exister en version bande dessinée dans la bibliothèque. Le livre d'Esdras propose une lecture de ce type qui nous parle du collectif Israël ou l'Église, comme de l'individuel, le juif ou le chrétien. Un retour de déportation. Je dis à Cyrus, mon berger, ça c'est un texte du prophète Ésaïe, 44, « Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple, qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser des nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. » C'est-à-dire, tout ce qui était fermé, moi, je l'ouvrirai pour rendre à nouveau possible mes promesses pour mon peuple, pour permettre aussi dans ta vie que les promesses de Dieu s'accomplissent. Oui, Rémi. J'aime bien personnaliser les paroles. Les promesses de Dieu pour ta vie peuvent à nouveau s'accomplir ou s'accomplir toujours. C'est un texte étonnant que celui d'Ésaïe. Dieu parle d'un roi, Cyrus, dont on vient de dire dans le début d'Esdras qu'il appelle le peuple d'Israël qui est dans son royaume comme mis en déportation, qu'ils peuvent retourner. Et Ésaïe, le prophète par excellence, présente Cyrus comme son messie, son berger. Ça veut dire que quelque part, le peuple, s'il veut redevenir collectivement et individuellement le peuple de Dieu et rentrer dans les promesses de Dieu, cela ne peut être que sous l'ordre et selon la volonté de son Messie, du Messie de Dieu. Ici, Cyrus, pour nous, Jésus-Christ. C'est dans la mesure où nous acceptons de voir en Christ. Je dis à Cyrus, Ésaïe 44, 28, je dis à Cyrus, mon berger, psaume 23, l'Éternel est mon berger. Dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ est le bon berger. Il est aussi le Messie, celui qui est envoyé. Eh bien, ce qui est vrai pour Cyrus, là aussi, Cyrus n'est jamais qu'une représentation de Christ. Alors, quand on regarde ce qui se passe juste après, une partie du peuple va se lever et retourner vers les promesses de Dieu. J'ai envie de dire aujourd'hui, qu'est-ce que te dit ton Dieu ? Qu'est-ce que te dit le Messie de Dieu ? Qu'est-ce que te dit le berger qui a été envoyé par Dieu dans ton cœur et dans ta vie? Est-ce que tu vas te lever et retourner vers les promesses de Dieu pour toi, si tu t'en es éloigné? Ou est-ce que tu vas prendre à nouveau à cœur cette réalité de la volonté de Dieu pour toi? La sortie de l'esclavage pour Israël, la rédemption pour nous. C'est sous la conduite du Messie que peut s'accomplir la volonté de Dieu. Je peux marcher en un autre nom, selon une autre volonté. La commission exécutive de l'Église apostolique nationale. Je marcherai en son nom. Non. Non. Bon, j'espère que ça reste entre nous. Hein. Jamais les responsables de notre Église n'entendront cette prédication. Sinon, ils vont me tirer les oreilles en disant « Comment ça ? Tu ne marches pas selon le conseil de la commission exécutive de l'Union des Églises apostoliques ?» Non. Je marche selon le conseil de celui qui est mon Messie, mon berger. Cyrus, mon berger, hein, pour pouvoir recevoir cette parole du Messie, il faut être à un moment donné comme Israël en esclavage et en déportation. Cyrus, c'est le Messie qui vient répondre aux pleurs et aux lamentations de ceux qui se retrouvent exilés à Babylone, loin des promesses qui sont faites aux enfants de Dieu. C'est de leur faute, c'est de leur responsabilité, bien sûr. Et certains peuvent, parmi nous, ce matin, peut-être, sentir l'Esprit de Dieu, leur faire comprendre qu'ils ne sont peut-être pas là où ils devraient être dans leur vie. Loin de l'appel qui a pu retentir un jour. Peut-être y a-t-il au plus profond de leur cœur, parmi ceux-là, ce chant de tristesse de ce qui n'est plus ou de ce qui n'est pas. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Jérusalem. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs d'être joyeux. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Jérusalem. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Psaume 137. Sur les bords du fleuve de Babylone, Israël pleurait son appel perdu, sa joie d'être là où elle devrait être. Il accomplira tous mes désirs. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, pour que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Voilà la promesse de Dieu et ce qui s'attache à notre vie, à ce que le Messie, Cyrus, Jésus-Christ veut faire dans notre existence. Waouh ! Je marcherai devant toi. Parfois, on peut avoir le sentiment, quand on s'est écarté des routes du Seigneur, qu'on marche tout seul. Je marche seul. Nanana. Non, c'est du Goldman, ça, c'est pas un cantique, excusez-moi. Mais ce monde marche tellement seul. Tellement seul et dans la tristesse. Et parfois, quand nous nous éloignons de Dieu, ben nous sommes dans le même état. Mais la promesse de Dieu, c'est de dire « Je vais détacher la ceinture des rois qui essayent de t'asservir, de ce monde, des puissances de l'adversaire qui veulent t'empêcher. Je vais leur enlever leur ceinture. » C'est-à-dire, quelque part, enlever la ceinture, c'est enlever la force. Et vous savez quoi ? À la croix, Jésus-Christ a débouclé la ceinture et la puissance de l'adversaire. C'est pour cela que je n'ai pas peur du diable. Quelqu'un me demandait, je suis allé faire une visite avec Solange il y a quelques semaines, d'une personne qui disait, mais j'ai l'impression que dans ma maison, il se passe des choses étranges, etc., que l'adversaire, le diable est présent. Je dis, elle me disait, venez prier pour la maison. Moi, je prie rarement pour les maisons. Je prie pour les personnes. Pour que la personne puisse avoir conscience que être en Christ est la meilleure des sécurités. Et si je suis en Christ dans ma maison, même si le diable est mon colocataire, pas de problème. Pas de problème. Parce que Christ, à la croix, a débouclé la ceinture des rois de ce monde, de Satan, et a fait qu'il est maintenant déjà vaincu. Je n'ai pas de crainte à avoir si je suis en Christ, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Je marcherai devant toi et j'ouvrirai les portes. J'ouvrirai les portes de bronze, et je mettrai en pièces les verrous de fer. Ah, il y a des fois où on se dit, mais je suis vraiment bloqué, enfermé, et j'arrive plus. Ouais, c'est vrai, je me tourne, et là, il n'y en a qu'un, donc il se dit, à qui il parle ? Je suis désolé. Mais des fois, on peut se dire, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des portes de bronze et d'airain, des verrous de fer qui m'enferment et qui m'empêchent d'aller ? La promesse de Dieu qui est faite par Ésaïe en parlant de Cyrus, mais en fait qui est un appel messianique, c'est de dire « Ce Messie-là ouvrira toutes les portes qui vous empêchent d'être libre, brisera tous les verrous. » Est-ce que tu crois cela dans la puissance de ce Messie ? Et Cyrus n'est qu'une représentation du Messie à venir pour Ésaïe. Je briserai et j'aplanirai les chemins tortueux. Il y a des fois, on se dit, je galère à marcher sur ma route. Ça monte, ça descend, il y a des pierres. Je ne sais plus, il y a un cantique, sur le chemin, va sans peur. Hein. J'avais une copine qui avait inversé les mots et disait, sur le chemin, sans vapeur. Donc, je n'arrive plus à... Non, c'est sur le chemin, va sans peur. Oui, quel que soit ce chemin, parce que la pensée de Dieu, c'est de t'accompagner sur ce chemin. Et une fois que les portes sont ouvertes, que les verrous sont brisés, qu'est-ce que dit Ésaïe, verset 3 du chapitre 45 ? Ce Messie, Cyrus, Jésus-Christ, te donnera des trésors cachés, des richesses enfouies. Des trésors cachés et des richesses enfouies. On aimerait bien, quand j'étais enfant, un de mes films préférés, quand j'étais tout enfant, hein, c'était « Ali Baba et les 40 voleurs ». C'était « Maïs, ouvre-toi ». Non, « Blé, orge ».« Sésame ! Sésame, ouvre-toi ». La pierre roulait et le trésor était là. Ah, ça, c'est notre rêve. Une simplicité, un mot et les richesses sont là, présentes. Ah ouais. Là, ce que dit Dieu au travers d'Ésaïe, c'est que si tu laisses le Messie briser les portes de ta vie qui te séparent des promesses de Dieu, de ton appel, eh bien, ce seront des trésors cachés, des richesses enfouies. Mais pourquoi tu les caches et pourquoi tu les enfouis, Seigneur ? Ben parce que parfois, il est nécessaire de faire sa part de travail. Les trésors sont là pour ta vie. C'est une évidence si tu as la foi. Les trésors sont là. Les richesses sont présentes pour toi. Alors, moi, je ne peux pas le faire. J'ai une chemise à manches courtes, mais retrousse tes manches. Ce qu'a fait Rémi, vous voyez, il a retroussé ses manches. Ça veut dire qu'il est prêt à rechercher les trésors cachés, les richesses enfouies de Dieu pour sa vie. Est-ce que c'est aussi ce que tu es prêt à faire ? Parce que ça ne viendra pas simplement, tu ne vas pas voir les portes s'ouvrir. Oh, une caissette de pièces d'or ! Non, non. Dieu va t'amener à travailler pour découvrir les richesses qui sont là pour toi. Parce qu'elles seront différentes des richesses qui sont prévues pour l'autre, pour sa vie, pour son appel. Ah ! Je te donnerai des trésors et des richesses enfouies. afin, dit Ésaïe, que tu sois riche. Le verset suivant, c'est quoi ? Donc, c'est pour que je te donne des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu sois riche. Ah non ! Afin que tu saches que je suis l'Éternel. L'objectif des richesses que Dieu veut déposer dans ma vie, c'est pas pour que je défile dans le monde avec un vêtement très classe en disant « Regardez-moi comme je suis riche, enrichi par la volonté de Dieu ». Non, c'est afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ce que Dieu veut faire, c'est briser les portes, enlever les verrous, afin que tu rentres dans les promesses et dans ton appel, comme Israël, sur les bords du fleuve de Babylone, a été appelé à dire, voilà, retourne vers ce qui est prévu par toi, pour toi, par ton Dieu. Hein ? Alors, c'est un texte fabuleux, ce texte-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce peuple, en déportation ? Alors, il est dit qu'au chapitre 2, il y en a qui se sont levés. Si j'osais. Vous avez le temps, non ? Il n'y a pas de poulet au four. Non. Chapitre 1, c'est cela. La porte s'ouvre et Dieu dit, au travers de ce Messie, rentrez à nouveau. Voilà, vous êtes sur les fleuves de Babylone, au bord des fleuves. Vous pouvez rentrer à nouveau. Et Dieu te dit cela ce matin. Tu peux rentrer dans une perspective de vie parce que ton Messie a pour toi des trésors cachés et des richesses enfouies. Chapitre 2. Voici ceux de la province qui sont montés de la captivité, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait déportés à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem, en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraïa, Réélaïa, Mardoché, Bilchan, Mispar, Bigvai, Réhum, Baana. Vous avez retenu ou faut que je répète ? Non, ça va ? D'accord. Parce que ça se complique. Ça se complique. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paréor, 2172, les fils de Shephatia, 372, les fils d'Ara, 775, prenez des notes, les fils de Zatou, ah, je l'avais oublié, Zatou, 945, Zakai, 760, et vous avez un chapitre entier, quasiment, qui parle de ceux qui sont retournés. Moi, j'aime bien, vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est précis. Dit, voilà ceux qui se sont levés et qui ont répondu aux promesses de Dieu. Il n'y en a pas un qui a été oublié. C'est génial. Ça fait des décennies qu'ils sont déportés et Dieu dit, voilà ceux qui ont répondu à l'appel que j'ai fait passer par mon Messie. Et les derniers de cette liste-là, c'est fils de Shephatia, les fils de Hattil, les fils de Pokéret, Hatsébaïm, les fils d'Ami, total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. C'est la dernière ligne chiffrée. Et puis là, ça se gâte. Voici ceux qui montèrent de Tel-Mela, de Tel-Archa, de Kérubadan et d'Imer, et qui ne purent faire connaître leur famille et leur ascendance pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaïa, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaya, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai le Galaadite, et fut appelée de leur nom, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ne les trouvèrent pas, ils furent déchus du sacerdoce. Mis à l'écart, alors qu'ils étaient prêtres et sacrificateurs. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, c'est-à-dire des sacrifices, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Oumim et le Toumim. Quand je dis que la Bible est remplie de textes sur lesquels on passe sans faire attention, et qui pourtant disent les principes de Dieu. Au moment où le peuple est appelé, peuple d'Israël, eh bien, seuls les Juifs devaient retourner, selon les dits de ceux qui est de leur peuple. Hein. C'est l'appel de Cyrus. Qui d'entre vous est de son peuple ? En ce moment, on est dans une période où il faut savoir si on est français ou pas. Hein. Il va y avoir des lois sur l'immigration qui sont en préparation. Et donc, il faut savoir qui est français. C'est là que ça va se gâter pour les étrangers. Je vois un Écossais qui commence à trembler. Non, il est marié. T'as la double nationalité, en fait. Oui. Oui, pas français. Ah, c'est dommage. Quand j'ai eu 15 ans, que je suis arrivé dans l'église apostolique, 5 mois après, l'église apostolique emmenait les jeunes qui le souhaitaient au Danemark pour un camp, avec Daniel Delonde, je crois, et Jacques Vavasseur, en tout cas. Et moi, je venais d'arriver dans l'église. Pour moi, c'était, j'habitais dans une cité HLM. Je me dis, oh, génial, génial. Je suis allé, j'ai dit à maman, je voudrais aller à ce camp-là. On va au Danemark. Je ne suis jamais sorti de ma cité HLM. Ça ferait du changement. Elle a dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis, il faut que je fasse une carte d'identité. Je n'avais pas de carte d'identité. Je suis allé chez à la gendarmerie. À l'époque, on faisait ça avec les papiers familiaux, faire la carte d'identité. J'ai déposé, rempli le formulaire, tout. Je suis revenu 3 semaines après, 15 jours, 3 semaines. Et là, j'ai dit, est-ce que je peux avoir ma carte d'identité? Je n'avais jamais eu de carte d'identité. Génial, une carte d'identité. Et puis là, on m'a dit, bah écoutez, non, en fait, vous ne pouvez pas. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que vous êtes d'un père vietnamien et d'une mère française. Il y a des accords qui existent pour dire que les enfants nés d'un père ou d'une mère vietnamienne ou d'un père et d'une mère française doivent attendre leurs 18 ans pour choisir leur nationalité. Moi, je suis né en France. Enfin, presque, je suis né à Marseille. C'est presque la France. Hein. Certains disent que c'est la première ville d'Afrique du Nord, mais je suis né à Marseille, sur le Vieux-Port. Et du coup, on m'a dit, ben non, vous attendez 18 ans. Je suis remonté en colère à l'idée de ne pas aller faire ce camp avec l'église au Danemark. J'ai vu mes copains partir. J'étais en colère tout l'été. J'ai dit, puisque c'est ça, à 18 ans, choisis nationalité vietnamienne. Ça leur apprendra. Bon, puis après, j'ai appris que le service militaire au Vietnam, c'était 3 ans. Je dis, bon, je vais leur faire grâce aux Français. Je vais faire le service militaire chez eux. Mais là, dans ce récit, c'est ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, quand Cyrus dit « Qui est de son peuple ?» Ben, faut le prouver, faut avoir ses titres d'appartenance au peuple d'Israël. Et là, vous avez des prêtres et des sacrificateurs qui ont perdu leurs papiers. C'est un principe spirituel. Quelque part, qui est de son peuple ? Aujourd'hui, votre preuve d'identité, c'est de savoir si vous êtes, par Jésus-Christ, appartenant au royaume de Dieu. Qui a ce papier-là ? Qui a ce papier-là ? Ah, ça va, il y en a qui ont compris le truc, ils se disent, là, je rate pas, j'y vais. Moi, j'ai cette preuve d'identité spirituelle dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, j'appartiens à mon Dieu et au royaume de Dieu. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ont perdu leurs papiers, des prêtres et des sacrificateurs qui, 70 ans après, c'est quoi, 2 générations à peine, ont perdu les preuves de leur identité? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que le prophète Jérémie dit clairement que ces hommes ont oublié qui ils étaient. Et ils se sont assimilés dans leur déportation aux populations, à la culture, mais surtout aux religions où ils étaient. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de devenir grec avec les Grecs, romain avec les Romains, etc., pour paraphraser une citation de Paul. Mais ils se sont tellement bien assimilés qu'ils ont fait des mariages avec des femmes étrangères, mais surtout, ils ont oublié qui ils étaient. C'est Jésus qui dit dans l'évangile de Jean, « Je leur ai donné ta parole », chapitre 17, verset 14, « et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jésus dit ceci, nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde. Et le peuple d'Israël était à Babylone, mais ils n'étaient pas de Babylone. Ils avaient à garder en eux l'identité qu'ils sont, même si le monde autour d'eux pouvait les haïr, les rejeter. Est-ce qu'il n'en va pas de même avec les chrétiens dans ce monde actuellement ? Il fait pas bon être chrétien à notre époque. Hein. Oh, on n'est pas persécuté ici en France, hein, soyons clairs, on n'est pas persécuté. Mais le regard qu'on pose sur les chrétiens est un regard qui nous discrédite. On n'est pas tout à fait intelligent, pas tout à fait raisonnable de croire en des fariboles. Une croix plantée à Golgotha qui rendrait possible la communion avec Dieu. Allons, soyons sérieux. Le monde, alors, et les chrétiens, dans certaines parties du monde, il y a des chrétiens qui, pour être chrétiens, ils laissent leur vie, sont en prison ou sont martyrisés. Nous sommes bien protégés. Nous n'avons qu'à supporter le discrédit ou les regards jugeants. Mais l'apôtre Paul dit ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Galates 3, 26. « Vous êtes tous fils. » C'est mon identité. Hein ? L'Épître aux Romains, celle aux Galates, sont la proclamation que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors vous, où sont vos papiers ? Qui êtes-vous ? Est-ce que le Saint-Esprit dans vos cœurs a établi cette identité ? Je suis fils et fille de Dieu. Peut-on oublier son identité ? J'étais en train de travailler sur la doctrine et notamment sur la question de la perte du salut. Peut-on perdre son salut ? La question est moins une question de perte. On ne perd pas son salut, mais on peut en sortir. Nous avons connu dans cette église une personne qui a pris son baptême il y a de nombreuses années et puis qui est devenue druide, qui est rentrée dans la culture celtique, bretonne, etc. Je ne sais pas où elle en est dans son rapport à Christ, mais quand à un moment donné on commence à adorer les arbres, la nature et non plus Jésus-Christ, je me dis, bah, c'est sa liberté. On peut sortir de la relation à Dieu par Jésus-Christ. Alors, si vous avez perdu votre carte d'identité, normalement, il faut faire une déclaration. Hein. Je me rappelle qu'on est allé il y a quelques années, il y a de nombreuses années, avec Michel au Danemark, toujours au Danemark pour une convention ou un séminaire, c'était en Danemark. Hein. Et puis, on s'est arrêté en Allemagne et on se réjouissait parce qu'il y avait quelque chose à vivre, etc. Et puis, dans une station-service, c'est Michel qui conduisait tout et puis... Il a laissé son sac, vous savez ce qu'on appelle le sac banane, dans les sanitaires. On est reparti, on a repris la route, et puis quelques dizaines de kilomètres plus loin, j'ai plus mes papiers. On est retourné en arrière. On ne les a pas retrouvés, bien évidemment. Et il a dû faire des déclarations. Perdre ses papiers, ça peut nous priver parfois de choses, de la grâce, de la vie avec Dieu. Alors il s'agit de faire une déclaration à Dieu, de confesser, de dire... « Seigneur, j'ai perdu mon identité. Je suis sorti de tes promesses. Je veux à nouveau redevenir celui que je suis au plus profond de ton cœur. » Alors, j'ai entendu une prière ce matin de Patricia qui disait « Le regard que nous avons sur nous est loin d'être la réalité de ce que nous sommes en toi. » Viens changer ce regard. Et je compléterai en disant, garde-moi d'abandonner ce que je suis en toi. Alors peut-être qu'il y a dans ta vie ou dans ma vie des moments où j'oublie ce que je suis en Christ. Où j'oublie les promesses, les richesses, les trésors qui s'attachent au fait d'être en lui. Juste quand dans le livre d'Esdras, ceux qui ont perdu leur identité sont mis de côté, ils sont privés, hein, privés du partage, alors pas du pain et de la coupe le dimanche, hein, mais de ce qui les nourrissait, les holocaustes, etc. Ils sont mis de côté, ils perdent leurs attributs et leurs avantages. Et vous savez, j'ai 50 ans de vie avec le Seigneur, combien je suis attristé de voir des hommes et des femmes qui avaient les prémices dans leur vie de choses merveilleuses pour eux et pour l'Église et pour le monde. Et puis, qui, sous l'effet de la colère ou d'autres chemins, ont perdu les richesses qu'ils avaient. au collège biblique, nous étions il y a presque 50 ans, hein, 40 ans, 43 ans, 45 ans. Il y a des personnes, on se disait, mais ils vont révolutionner le monde. Ils ont un tel don. Moi, je regardais des frères, des sœurs, je disais, waouh, oh, ceux-là, ils vont être des pierres précieuses pour l'Église. Et certains ont disparu au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et parfois, ceux qui étaient les plus modestes, je pense à un frère d'origine belge et qui est devenu pasteur de l'église de Réveil, était, oh, c'était pas, on n'avait pas l'impression que ce serait un foudre de guerre. Il avait des hommes autour de lui qui, quelque part, semblaient, je dirais, lui faire de l'ombre. Il était très modeste. Ces hommes qui faisaient de l'ombre ont vu leur tronc coupé, tomber, et lui l'a grandi. C'est devenu un homme de Dieu, d'une stature, d'une solidité. Est-ce que tu veux vivre cela dans ta vie, quel que soit le regard que tu poses sur toi-même? Quel que soit ce regard, cherche que le regard que Dieu porte sur toi maintenant pour vivre ses promesses. Et si on lit le livre d'Esdras, et j'en terminerai avec ça, moi je vous encourage à lire le livre d'Esdras, les principes spirituels qui suivent sont du même ordre. Une fois qu'il est parlé de ceux qui ont perdu leur titre d'identité, le chapitre 3, c'est le peuple qui arrive à Jérusalem, la première chose qu'ils font, ils rétablissent l'autel des holocaustes sur ses assises. C'est-à-dire que dans le temple, tout avait été enlevé, détruit, cassé. La première chose qu'il fait, moi, je serais arrivé à Jérusalem, et alors les gars, on fait quoi maintenant qu'on est là? On rentre dans les promesses de Dieu, on bâtit nos maisons, on s'occupe de s'installer. Moi, je voudrais bien un frigidaire américain dans ma maison à Jérusalem parce qu'il fait chaud ici. Voilà, on serait peut-être intéressé à que faire pour avoir un petit peu de confort, etc. Ouais. Ils n'ont pas fait ça. Tous ensemble, ils ont fait une première chose. Au septième mois, le peuple s'assembla comme un seul homme. C'est-à-dire, d'une manière unanime. Et ce qu'ils ont fait, ils se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes. C'est-à-dire que leur souci, c'est comment est-ce qu'on rend un culte à Dieu pour avoir la conscience, la réalité de son salut dans notre vie. D'abord, la première des choses, c'est pas de mettre un toit sur nos maisons, etc. Peu importe si on habite sous des tentes ou dans une certaine précarité. La première chose, c'est que l'autel des holocaustes soit là pour qu'on offre des sacrifices et des holocaustes à Dieu. Et j'ai envie de dire, nous sommes dans un texte qui parle des principes spirituels. Et j'ai envie de dire que ce texte-là nous dit la priorité, c'est l'autel des holocaustes. Traduit dans la Nouvelle Alliance et dans le langage de la Nouvelle Alliance, la priorité, c'est la croix. Si la croix n'est pas plantée en plein milieu de notre vie pour nous rappeler le sacrifice de Christ permanent, efficace, qui fait que je peux me lever chaque matin et prononcer cette prière, notre Père. Je ne peux dire notre Père que parce que Christ m'a racheté, m'a pardonné et m'a rendu vivant. Et sur ma carte d'identité, vous savez, il y a mon nom. Owangto Jean-Marc. Ça veut dire que j'ai mon identité en lui. Apocalypse, je crois que c'est chapitre 2 en tout cas. Apocalypse, c'est « Au vainqueur, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel il y a un nom. Ce nom est nouveau. » Alors, c'est peut-être pas Jean-Marc, parce que c'est pas terrible, Jean-Marc. Hein. Je dis souvent, quand je rencontre quelqu'un, je dis, c'est comment ton nom? Et quand on me dit, Yadar, oh. Voilà. Gabriel, comme l'archange. Hein, il paraît que le plus beau des prénoms dans le monde, il y a eu un vote sur Internet, c'est Sophia, sagesse. Sophie, Sophia. Heureusement qu'elle n'est pas là, parce que sinon, elle va prendre... Hein, mais c'est le plus beau prénom du monde. Moi, c'est Jean-Marc. Ça veut dire Jean en hébreu, c'est Yohanan, Dieu a donné, et Marcus en latin, ça veut dire un marteau. Ouais, moi, c'est le roi Merlin, quoi. Ça change, quoi. Hein. Mais en lui, j'ai un nom nouveau. Et quelque part, cette identité se trouve en lui. Alléluia ! J'ai un nom nouveau en lui, une identité nouvelle. Mais parce que l'autel des holocaustes dans ma vie est présent, c'est la croix. Et dans la mesure où la croix n'est pas présente, où elle est oubliée dans un coin, j'entends beaucoup parler aujourd'hui de la missionnalité ou l'aspect missionnel de l'Église. Ça serait l'objectif de l'Église, c'est proclamer la croix plantée à Golgotha, le salut offert en Christ. C'est cela le centre de nos vies. Ils ont rétabli l'autel des holocaustes. Regardons si l'autel des holocaustes, la croix, sa réalité, son efficience, sa capacité à nous sauver tous les jours est toujours présente dans notre vie. Je vais m'arrêter là, mais j'espère que je vous aurai donné envie de lire le livre d'Esdras et de Néhémie qui a servi de support à toute une démarche que l'Église nationale a faite ces 4 dernières années de revitalisation. Et Esdras et Néhémie, pour moi, après, il y a, une fois qu'on a rebâti l'autel des holocaustes, que la croix est plantée, c'est comment on va s'occuper de réparer les portes et les brèches. Il y a des portes qu'il faut casser et briser, c'est celles qui nous enferment, mais il y a des portes qu'il faut poser pour empêcher l'œuvre de l'adversaire et du monde de venir envahir l'espace de sainteté qu'est ma vie et l'Église. Et les brèches. J'ai entendu une prière et aussi une parole ce matin qui dit, voilà, il y a des choses qui viennent dans ta vie, de ton histoire, de l'enfance, de ce que tu as vécu. Certainement des traumatismes, des blessures. Ce sont des brèches. Est-ce que je suis prêt à me mettre au travail pour... Il y en a qui le font. Pour réparer les brèches. Et puis, il y a un autre principe, c'est qu'une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'adversaire se dit, on ne va pas les laisser faire comme ça. Hein ? On ne va pas les laisser faire, reconstruire, etc. Donc, les ennemis d'Israël commencent par s'assembler. Dans un premier temps, ils disent, on va vous aider. On va vous donner un coup de main. Et parfois, l'adversaire vient dans notre vie et dit, oh, attends, tu ne vas pas faire ça tout seul. Ça marche quand on fait la peinture de l'Église. Mais l'adversaire, lui, il peut dire dans ta vie, je vais venir, je vais te donner un coup de main, tu vas voir. Ça ira plus vite. C'est le discours du serpent au jardin d'Éden. Ça ira beaucoup plus vite si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance. Attends, perds pas de temps. Et il y a des fois, on choisit ces chemins-là. Puis quand ça ne marche pas, l'adversaire dit, bon, maintenant qu'on a été gentil, que tu n'as pas voulu de notre aide, ben, on va s'opposer à vous. Qu'est-ce qu'on a comme stratégie spirituelle pour empêcher l'adversaire de se mettre en ordre de bataille pour nous nuire et nous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. C'est là tout le message d'Esdras et Néhémie. Alors je vous invite, chers amis, à garder vos papiers d'identité sur vous, à savoir quel est votre nom, quelle est la place de Christ dans votre vie, à ce que l'autel des holocaustes soit toujours bâti, présent dans votre esprit, dans votre vie, et entamer cette œuvre de restauration, de réparation des brèches pour rester en Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui est véritablement un guide pour nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur, pour que nous puissions rentrer tout à nouveau dans tes promesses par ton Esprit Saint, Seigneur. Par ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs, nos esprits à ce qui vient de toi, ce qui est de toi. Garde-nous d'être de ces sacrificateurs qui se fondent dans leur monde et qui oublient ce qu'ils sont en toi. Donne-nous de découvrir des trésors cachés que tu as prévus pour chacune de nos vies, des richesses enfouies. Nous voulons, Seigneur, retrousser nos manches et chercher ce qui est le meilleur pour nous. Par ton esprit, Seigneur, fais de nous ton peuple. À cette question, qui est de son peuple ? Nous répondons, nous voici, Seigneur, nous le sommes. Amen.